Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de m'offrir la possibilité de vous faire part de certaines réflexions. Nous ne sommes pas mis d'accord à l'avance sur donc la succession des différentes interventions. Mais ce que j'ai entendu ce matin déjà en ce qui concerne l'exposé de Madame Fagot-Largeau et de Monsieur Bourdelais, eh bien c'est tout à fait adéquat. Ça me permet de me situer tout à fait dans la lignée, surtout lorsque nous avons parlé de la liberté individuelle et en même temps des exigences du marché, le mercantilisme, les tensions qui peuvent exister donc entre l'idée de public health et les exigences du marché. Eh bien, je crois que c'était une parfaite transition pour déboucher sur les réflexions dont je voulais vous faire part aujourd'hui. Bon, en tant qu'historien, si vous permettez, moi aussi, je vais revenir sur une rétrospective pour indiquer que depuis les débuts de la médecine, c'était en Europe, c'est-à-dire le 5e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'au 17e siècle, nous avons eu une sorte de normalité qui s'était établie. Il y avait des médecins qui n'étaient pas formidables, on pourrait dire, et c'était justement les clients riches qui pouvaient se permettre d'avoir un médecin, sauf exception, par exemple, dans l'armée romaine, où les soldats, les mercenaires, les soldats avaient besoin donc de médecins, de bons médecins. Mais sinon, il y avait des charlatans qui exerçaient la médecine sans licence, sans autorisation particulière. Il n'y avait pas d'hôpitaux au sens où nous entendons, établissement hospitalier, et il n'y avait pas de santé publique. On n'avait pas cette notion de santé publique. Si je prends par exemple donc des règlements française du 13e siècle, eh bien, on disait par exemple, bon, le poisson qui n'était pas vendu jusqu'au vendredi soir, et on n'avait pas le droit de le conserver jusqu'au lundi matin. On devait au contraire distribuer cela aux patients des hôpitaux. Alors voilà, c'était des idées très modernes, très progressistes de la santé publique, mais ça n'a évidemment rien à voir avec ce que nous entendons par là à l'heure actuelle. Et puis, les choses ont changé au 18e siècle. Et là, nous avons deux noms, deux auteurs que nous pouvons citer dans le contexte allemand, deux noms qui incarnent cette mutation profonde, un mouvement qui s'est diffusé ensuite en Europe. Alors, pour l'Allemagne, donc c'était ces deux personnalités qui symbolisent, je disais, cette mutation. D'abord, Johann Peter Süssmilch, qui est encore considéré comme le mentor de la statistique médicale, encore à l'heure actuelle. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'ordre divin dans les rapports des humains depuis la naissance jusqu'à la mort et dans leur reproduction ». Et ensuite, donc c'est une image ici donc qui sort de la période médiévale. Et on prend les événements essentiels, donc la naissance, la mort, la reproduction. Et on regarde également donc quelles sont les pathologies. Et là, on s'appuie également sur des chiffres déjà à ce moment-là. Ce n'est pas une vision religieuse. C'est un homme intelligent qui donc appuie ses résultats sur des statistiques à l'époque. De l'autre côté, nous avons Johann Peter Frank. Johann Peter Frank, lui, donc, incarne la nouveauté. Il est connu pour avoir publié un ouvrage qui s'appelle « Système d'une police médicale ». Mais le mot « Polizei », ça n'est pas comparable à la police telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est plutôt apparenté au terme de « police ». Politique. C'est une politique de la santé donc, qui est préconisée ici. Et il y en a eu d'autres qui ont suivi en France, en Grande-Bretagne, etc. Mais ces deux-là, Johann Peter Süssmilch et Johann Peter Frank, nous montrent vraiment le début d'une nouvelle ère. Pourquoi ? Pourquoi justement en Europe ? Pourquoi au XVIIIe siècle ? Pourquoi à ce moment-là ? Pourquoi y a-t-il eu cette évolution que l'on n'a pas observée ailleurs ? Moi-même, je travaille donc sur la médecine chinoise, l'histoire de la médecine chinoise. Et en Chine aussi, il y avait donc une histoire de 1500, 1600 ans déjà, avec des gens tout aussi intelligents et qui donc auraient pu écrire sur les maladies. Pourquoi n'y a-t-il eu cet essor en Chine ? Eh bien, ce sont des questions que nous nous posons. Pourquoi justement en Europe ? Eh bien, en Europe, à l'époque, il s'est passé un fait unique, à savoir le début de la création des États-nations et puis avec l'apogée naturellement au 19e siècle. Et c'est justement donc au début de cette création des États-nations que l'on a reconnu que les États étaient en concurrence les uns par rapport aux autres. Et puisqu'ils sont en concurrence les uns par rapport aux autres, il faut avoir un État fort. Comment faire pour avoir un État fort ? Les caméralistes et les mercantilistes, bon, c'est-à-dire les gens qui s'occupaient de l'économie à l'époque, ont décrit la situation et se sont rendus compte que l'État fort, c'est un État sain. L'État doit être sain, c'est-à-dire que la population doit être saine depuis le haut de l'État jusque tout en bas. Pourquoi ? Parce que la force d'un État en Europe lui permet d'assumer la concurrence par rapport aux autres États-nations. D'abord en ce qui concerne la force productive, donc des manufactures de l'époque. Comment faire pour assurer donc ma productivité dans les manufactures ? Comment avoir des sites de production forts ? Eh bien, en ayant donc toute une armée d'ouvriers très sains, en bonne santé, en bonne constitution. Mais ce n'est pas le seul élément. Les États européens doivent mettre en place des armées populaires. Plus l'armée est nombreuses, mieux ça vaut. Plus les gens sont en bonne santé, mieux ça vaut. C'est ainsi que l'on peut à ce moment-là envahir le pays voisin, le cas échéant, ou se défendre en cas de besoin. Et c'était là le deuxième motif très important. Johann Peter Frank et d'autres avaient donc suggéré justement d'avoir cet État fort, cet État sain, et il a trouvé un terreau très fécond pour ses idées. Et si on se concentre maintenant sur l'Allemagne et sur l'idée de la Volksgesundheit, de la santé publique, eh bien, on définit la santé à partir de là, donc au niveau de l'État. Évidemment, ce n'est pas une société démocratique. À l'époque, ce sont des sociétés féodales, monarchiques encore. Et à ce moment-là, la santé, donc, c'est un moyen pour arriver à certaines fins. La santé, c'est un moyen pour assurer la position d'un État fort par rapport à d'autres États forts. Et autre chose unique en Europe à l'époque qui ne s'est pas répétée ailleurs, comme par exemple en Inde ou en Chine, le médecin en Europe depuis le 18e siècle et surtout depuis le 19e siècle et jusqu'au 20e siècle, le médecin a une position unique dans la société. Il est chargé par les tout-puissants de se faire lui-même l'avocat de l'ensemble de la population. Le médecin a le droit de poser des questions qu'un médecin ne peut jamais poser en Chine. Et ça explique pourquoi les réactions, par exemple, en Chine par rapport au SRAS sont tout à fait différentes de ce qui se passe en Europe. Chez nous, le médecin a le droit de poser des questions très délicates. Il a le droit de s'opposer au tout-puissant. Depuis Frank, il a le droit de poser des questions, de savoir quelles sont les conditions de travail, quelles sont les conditions d'habitat de la famille. Et il peut formuler des exigences, des requêtes revendications, et cela est quand même en, cela pourrait déranger les intérêts des tout-puissants, et pourtant ils ont le droit de le faire. C'est ce qui caractérise spécifiquement l'Europe à cette époque. C'est, si vous voulez, la victoire apparente de la raison. Une victoire temporaire. Chaque État se considère comme étant une société, Le but de cette société, c'est d'être une société forte, et surtout pour survivre parmi les nations à partir du 19e siècle. Et l'objectif de cet objectif de force doit être servi par une médecine. Et cette médecine ne peut être que la médecine des sciences naturelles. C'est l'hygiène qui repose sur la microbiologie, sur d'autres résultats scientifiques. C'est cela la situation au 19e siècle, dans la deuxième moitié du 19e siècle en Europe, dont les détails, une médecine dont les détails ont été décrits précédemment pour l'Union européenne, pour les différents pays, de manière excellente, justement, décrit de manière excellente précédemment. Alors, j'en arrive maintenant au cas de l'Allemagne. En Allemagne, ceci a débouché sur une perversion de ce terme de Volksgesundheit, de société publique. Cette hygiène sociale qui débouche sur une hygiène raciale, qui fait place à une hubris, à des abus, où l'on veut donc séparer donc un noyau sain des éléments malsains, ce qui fait que l'on pervertit cette idée de la santé publique. Et cela débouche bientôt sur une ou ce qui a abouti à discréditer le terme de santé publique dans la période de l'après-guerre. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous discutons ensemble, nous parlons de public health, mais nous avons un contexte historique tout à fait différent maintenant. En France, public health ou santé publique connaît une floraison, comme dans d'autres pays. Et la santé publique doit se prémunir contre les risques que l'on a indiqués précédemment. Alors que en Allemagne, et en Allemagne de l'Ouest spécifiquement, et maintenant dans l'ensemble de l'Allemagne depuis la réunification, la public health est partie de zéro et doit remonter, donc doit recommencer à lutter contre les mêmes tensions, contre les problèmes de liberté individuelle, etc., que nous avons déjà entendu tout à l'heure. C'est-à-dire que au départ, on est confronté aux mêmes problèmes en France et en Allemagne, mais la situation de départ est tout à fait différente. Qu'est-ce qui a changé? Mesdames et messieurs, j'ai parlé des États-nations qui devaient faire preuve de leur force, qui devaient s'appuyer sur une très large armée, et ce qui exige que tous les jeunes hommes doivent être en bonne santé, et les jeunes femmes doivent être aussi en bonne santé, non seulement pour aller travailler dans les manufactures, mais aussi pour donner naissance à des enfants en bonne santé. Avons-nous besoin de cela? Nous n'avons plus besoin de cela. Vous savez que maintenant, nous n'avons plus ces armées. Le service militaire, en général, ne dure que très peu de temps. Nous avons, au contraire, besoin de petites forces d'intervention rapides, hautement techniques, mobiles, à l'échelon mondial. Et on les envoie tantôt au Kosovo, au Congo, en Afghanistan, au Proche-Orient, à la Corne de l'Afrique. C'est de cela que nous avons besoin. On ne va plus maintenant mener donc de guerre contre l'Autriche, contre la Pologne, contre la France. Ça nous apparaît complètement absurde aujourd'hui. Dieu merci. J'espère qu'un jour, ça nous sera aussi complètement absurde d'envoyer des troupes en Afghanistan. La situation à la sortie du XXe siècle n'exige plus d'avoir donc ces armées, et la situation des manufactures aussi a changé, c'est-à-dire que la plupart des produits fabriqués le sont par exemple en Chine, et nous n'avons plus besoin d'avoir la main-d'œuvre correspondante. On n'a plus suffisamment d'emplois déjà pour les populations correspondantes. Il nous suffit d'avoir un plus petit nombre donc de travailleurs. Donc, ma thèse la pression qui s'exerçait sur l'État, la pression politique qui devait veiller à garantir une bonne santé pour l'ensemble, cette pression a diminué. Et bon, sur la base des différents contextes historiques que nous avons et vu les différentes conditions sociales qui existent dans nos différents pays, il y a naturellement des nuances qui peuvent changer d'un pays à l'autre. Mais quels sont les indices? Vous les connaissez tous. Un certain démantèlement de la santé publique. Par exemple, durant ma jeunesse, vous aviez partout un office de la santé avec un médecin. Maintenant, donc, ça fait partie d'une administration comme le bureau qui vous donne le permis de conduire ou ce sont les bureaux municipaux. Et vous trouvez aussi donc des anthropologues ou bien des sociologues, etc. Donc, cette signification des offices de la santé a vraiment changé, a vraiment diminué. Et les fonctions donc de ces offices également sont plus ou moins démantelées. Et également, la législation sur les épidémies, elle aussi, donc, est remise en question. Par exemple, le virus VIH-Sida, donc, n'est plus véritablement intégré dans cette législation. Encore une autre thèse. Le malade, maintenant, n'est plus considéré comme étant une charge aux yeux de la politique, mais plutôt comme une dimension économique positive. La santé comme la maladie représente quelque chose de pécuniaire. Et vous connaissez peut-être donc Kondratiev comme économiste. C'est un symptôme ici, c'est symptomatique de différents éléments qui montrent que la santé de plus en plus représente une valeur de marché. Et avec la maladie aussi, on peut gagner pas mal d'argent, alors pourquoi les supprimer ? Et qui souhaiterait avoir une population entièrement saine encore à l'heure actuelle. Ceci nous donne donc une position tout à fait différente de la santé dans nos sociétés. Durant les deux siècles passés, la santé, c'était un moyen pour arriver à ses fins. Et les fins, c'était l'État fort. Et pour cela, il fallait une population saine, si possible, à 100%. Les hommes, les femmes, les pères, les mères, les travailleurs, les ouvriers, les soldats. Bon, ceci, c'est terminé. On le voit tous les jours. Regardez les médias, la presse. La santé, maintenant, est devenue un but en soi. On vous demande de vous occuper vous-même de votre santé. Et c'est à vous donc d'appliquer les critères correspondants si vous voulez être en très bonne santé, de prendre les mesures correspondantes. Alors, des témoins très connus ici. Voilà, c'est une dame très connue, c'est une responsable politique qui disait « Jusque-là, nous avons plutôt considéré le secteur de la santé comme un facteur de coût et comme une charge pour la société. Ceci n'est plus du tout vrai à partir de maintenant. » C'est une citation que je propose à votre réflexion ici. Mais il n'est pas nécessaire de regarder des personnes. Regardons simplement donc les rubriques économiques dans la presse et vous verrez que l'on parle d'une véritable machine à emploi dans le secteur de la santé. On voit que Philips gagne davantage d'argent avec la santé qu'avec autre chose. On pourrait même remplacer, dire, avec les maladies. Philips gagne davantage qu'avec d'autres secteurs d'activité. Quelles sont les conclusions que l'on peut en tirer? Retournons-nous vers le 18e siècle, à l'époque de Franck, à l'époque du 18e siècle et les périodes précédentes. Encore une fois, maintenant, la santé publique est marquée surtout par une recherche individuelle de la santé. Vous autres, mesdames et messieurs, les politiques vous demandent de vous mettre à la recherche de votre santé de manière individuelle, de trouver les moyens d'être en bonne santé et de financer votre santé. Les règles du jeu, il faut aussi en parler, les règles du jeu de la santé publique d'antan ont changé. Et il ne sert à rien de regarder la santé publique comme un secteur à part dans la société. La santé publique, vraiment, c'est un critère qui montre des modifications sociétales profondes. Et les règles du jeu de l'ancienne santé publique reflètent une forme de gouvernement que nous n'avons plus à l'heure actuelle. Heureusement, diront certains, c'est-à-dire une forme autoritaire où l'État peut intervenir dès qu'il y a un problème. Dès qu'il y a un problème, la tuberculose, la grippe, c'est l'État qui fait appel à des experts. Les experts se réunissent, donnent un avis selon les opinions générales et aussitôt l'État intervient, publie les règles correspondantes et impose ces règles. L'État fort est alors le garant de l'ordre. Et les décisions sont prises par des spécialistes en étant en cela commandité par l'État. Et l'imposition de ces règles se fait par la contrainte. Les nouvelles règles du jeu, au contraire, sont les suivantes. La démocratie. Et il y a donc une approche volontariste à la place d'une approche autoritaire. L'approche volontariste est naturellement basée sur la connaissance. C'est-à-dire, nous pensons que si nous adressons à des citoyens, donc à part entière, et qu'on leur donne les connaissances correspondantes, les citoyens, sur la base de leur responsabilité individuelle, prendront les habitudes correspondantes et pratiqueront les choses de manière correspondante. Le citoyen, à ce moment-là, est un membre responsable d'une société dont les membres ont égalité de droits. Et il prend ses décisions sur la base de connaissances. Et j'ai ajouté cela encore ici. C'est un bon exemple d'hier ou d'aujourd'hui. C'est le slogan en Allemagne « Fit statt fett », donc « fit » au lieu d'être « gros et gras ». On sait que nous avons trop d'embonpoint, nous mangeons trop gras, les enfants ne bougent pas assez, etc. Et là, donc, tout de suite, on a tendance à s'appuyer sur les anciennes règles, davantage de pression, davantage d'action de la part de l'État. Mais non, ça ne marche plus. La conséquence politique, alors, maintenant, va être la suivante. C'est un ministre du centre et une ministre qui est plutôt à gauche, dirons-nous, dans le paysage politique. Et ces deux ministres se mettent ensemble devant la presse et disent, voilà, ce problème très complexe, nous allons y remédier en introduisant l'alimentation, la nutrition comme matière scolaire. Mesdames et messieurs, il y a donc des recherches de plusieurs siècles sur l'excédent de poids, sur l'adipositas. On sait que c'est très, très difficile de faire changer les habitudes. Or, là, on a donc des gens qui se méprennent totalement donc sur les possibilités. Ici, la contrainte donc n'est plus à l'ordre du jour et c'est la raison pour laquelle on va se mettre d'accord, par exemple, sur un étiquetage des produits alimentaires. Je disais, par exemple, à Londres, il y a déjà donc ce feu tricolore, les couleurs des feux tricolores sur les produits alimentaires. On se demande si l'on va adopter cela ici aussi. Et bien sûr, il y a toujours des interprétations qui sont faites par les médias là-dessus. Mais c'est seulement une demi-vérité. La vérité, c'est qu'en fait, nous avons de nouvelles règles du jeu qui décident des choses. J'en arrive enfin aussi à parler à la question du virus VIH. Là aussi, toujours la recherche individuelle de la santé, la voie individuelle pour arriver à la santé. C'est la raison pour laquelle tout se fait de manière volontaire. Citation de la commission d'enquête du Bundestag allemand en 1990 qui disait « La décision pour ou contre un test est une décision individuelle », ce qui horripile naturellement les gens qui savent quelles sont les conséquences chez des gens qui portent le virus en eux et qui ne sont pas responsables et qui n'agissent pas. Mais d'un autre, ou les microbiologistes, par exemple. Mais d'un autre côté, on voit vraiment donc cette importance des nouvelles règles du jeu, la protection individuelle, la protection des libertés individuelles, qui est jugée comme un élément prioritaire par rapport donc à la protection contre les anciennes épidémies ou la protection de ceux qui ne sont pas encore contaminés. Donc, recherche individuelle de la santé. Et on a plus maintenant la position de monopole de la médecine classique. On a la liberté, au contraire, de rechercher des méthodes dites douces. On recherche partout à travers le monde ses propres moyens pour accéder à la santé. Et là, même des moyens qui ne sont pas légitimables sur le plan scientifique. Cela fait partie aussi donc de cette nouvelle forme de compréhension. Et même la Cour constitutionnelle indique que les caisses d'assurance maladie doivent financer également des thérapies qui ne sont pas reconnues sur le plan scientifique. Donc, encore une fois, ce champ où le médecin n'est plus forcément l'avocat de tous, il n'a plus ce rôle d'avocat. Tous les partis politiques sont d'accord pour dire que les caisses d'assurance maladie doivent agir, et il y a naturellement maintenant des idées économiques donc qui interviennent, et la réalité de nos systèmes sont tout autres de ce que nous aurions jugé juste dans nos milieux universitaires. Si la santé devient un produit, une marchandise, si la santé maintenant est un but en soi, quelle est la mission de la politique? Eh bien, la mission de la politique, mesdames et messieurs, c'est de créer des conditions dans lesquelles la médecine individuelle et la santé publique puissent être pratiquées de la manière la plus efficace possible. Mais la question est de savoir quelles sont donc alors les incitations que l'on peut donner à la politique dans ces scénarios en mutation? Pourquoi est-ce que la politique devrait remplir cette mission? Il est très important que les universitaires qui se penchent sur ces sujets voient donc que la politique, de toute façon, n'intervient toujours que sur la pression exercée par certains groupes d'intérêt. Alors, quelles sont donc les possibilités, quelles sont les missions de la politique? Eh bien, il s'agit toujours naturellement de créer des conditions dans les différentes législations, mais aussi de créer le cadre universitaire qui fournit les connaissances indispensables pour la santé publique. C'est-à-dire, nous-mêmes, en tant qu'universitaires, si nous souhaitons que ces éléments indispensables de la santé publique soient développés et soient appliqués donc dans la société, eh bien, nous devons exercer une pression auprès de la politique pour que les conditions correspondantes soient créées. Quel est le rôle, la mission de la science? C'est d'identifier les problèmes de santé qui touche l'ensemble de la population ou certaines parties de la population, et ces problèmes qui représentent une charge stratégique ou morale pour l'ensemble de la société, de manière donc à engager les mesures pour aller à l'encontre de ces problèmes. C'est ça le rôle des sciences par rapport à la santé publique. Et qu'est-ce que nous entendons d'ailleurs par santé publique? Moi, je vous propose une définition stratégique. Ce n'est pas une définition que l'on trouve dans les manuels d'enseignement, mais c'est donc une définition qui permet de faire la différence par rapport à la médecine individuelle. La santé publique comprend deux éléments. D'abord, la santé d'une population ou de certaines parties de la population, parce que cela peut être des groupes ethniques, des groupes professionnels, les conditions d'habitation, etc. Donc, santé d'une population ou de certaines parties de la population qui doit être améliorée par certaines mesures qui ne sont pas prises directement dans le rapport individuel entre médecins et patients. Et en même temps, donc, des mesures qui découlent des exigences d'une santé publique fondée sur des résultats scientifiques. La santé publique, ce n'est pas une matière à part parmi d'autres. La santé publique a les mêmes droits que la médecine individuelle. Elles doivent coexister, il faut le dire sans cesse en Allemagne. Et les experts, de toute façon, le savent déjà, la santé publique conduit ou pilote parfois la médecine individuelle. Regardons les réalités, cependant. Vous avez tellement d'institutions, de positions, de disciplines qui font partie de la médecine individuelle. Et quelque part, caché, on a un élément santé publique. Mais c'est très difficile, bien sûr, de faire la différenciation entre médecine individuelle et santé publique. Ce n'est pas si simple d'arriver savoir, par exemple, si l'épidémiologie, ça fait partie de la médecine individuelle ou de la santé publique. Par exemple, on sait que certains chauffeurs de bus n'arrivent jamais à l'âge normal de la retraite, ou bien que certaines catégories ont des concentrations de plomb dans le sang qui sont nettement supérieures à la moyenne, etc. Donc, vous voyez qu'il y a des rapports multiples entre ces différentes disciplines. Et donc, par rapport à l'avenir, il faut veiller à ce que la santé publique soit à égalité de droits avec la médecine individuelle. Et il y a de nombreux groupes professionnels. J'ai mis les exemples ici. Certains groupes professionnels qui sont censés faire partie de la médecine individuelle, d'autres qui sont censés faire partie de la santé publique. Or, il faut établir donc les rapports. Alors, d'un côté, les médecins, les infirmières, aides-soignants, etc. De l'autre côté, les économistes, statisticiens, chimistes, psychologues. Et donc, ça pourra différer certainement de la médecine individuelle pure et simple. Je conclurai en disant que dans les nouvelles règles du jeu et même à l'époque actuelle, il faut montrer qu'il y a un partenariat porteur de sens entre la santé publique et la médecine individuelle. C'est une complémentarité qui existe ici. Ceci représente à la fois la responsabilité et l'opportunité pour les universités. Je vous remercie.